le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs du 92,7 FM, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du jeudi 5 novembre 2015. N'oubliez pas que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et discuter avec les gens de notre entourage. Alors, aujourd'hui, trois sujets attireront notre attention, la Trudeau-magie, le questionnaire sur l'offre des soins de santé et le rapport Payette sur les médias de la région de Québec. Eh oui, mesdames et messieurs, commençons par la Trudeau-magie. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est ce qui a été écrit par Mme Denise Bombardier dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Et son papier s'intitule « Glamour et politique ». Eh oui, « Glamour et politique ». Elle commente justement l'arrivée de M. Trudeau comme premier ministre. On sait qu'hier, il a fait serment et il est devenu officiellement le premier ministre du Canada. Et il a fait une entrée qui est quand même spectaculaire, digne d'une vedette rock, si on veut. Et ce qu'elle dit, Mme Bombardier, elle dit « Plusieurs ministres sont des gens de sa génération qui dégagent une image de jeunesse, de réussite, de contrôle et qui, à l'instar de leur chef, pète de santé et d'énergie. » C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle a écrit dans le Journal de Montréal. Et oui, parce que hier on a assisté également à l'assermentation des ministres et c'est comme ça qu'elle les décrit, l'ensemble des ministres. C'est la photo qui se dégage de son équipe ministérielle, c'est celle que je viens de vous lire ici, sur les ondes du 92,7. Ce qui est intéressant par rapport à M. Justin Trudeau, je sais que vous en avez certainement entendu parler, vous l'avez lu dans les journaux, on n'a pas arrêté de parler de lui, mais l'analyse que fait Mme Bombardier, elle est fort intéressante. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Sans projet de carrière, il a fait 36 métiers, de bodyguard à professeur de théâtre, tel un voilier, il a dérivé en expérimentant les attraits culturels offerts à sa génération, qu'il s'agisse de la drogue, de la musique et des amitiés féminines. Sa beauté, sa gentillesse naturelle, son ouverture d'esprit et son anticonformisme, celui-ci, l'héritage de son père, ont contribué à la formation de sa personnalité charismatique. Et c'est sûr que Justin Trudeau est apprécié par son charisme. Et c'est ce qui fait sa marque de commerce. Mais elle va ajouter quelque chose d'intéressant également. Elle va dire « Plusieurs de ses ministres ont eu des parcours similaires, moins brillants, moins spectaculaires, mais tout aussi en accord avec leur époque. Pour simplifier, disons que rares sont les membres de son cabinet qui semblent souffrir d'un complexe d'infériorité. » Cette assurance qu'ils dégagent leur a permis de choisir la politique, ce monde où ils croient sincèrement, pour la plupart, changer la société. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que Justin Trudeau, même s'il a une image de bon gars, même si Justin Trudeau semble un homme fort sympathique, Justin Trudeau est un homme déterminé à changer l'image et la face du Canada et il s'est entouré d'une équipe qui vise ce changement-là. C'est pas pour rien que Justin Trudeau a mis de l'avant justement de pouvoir légaliser éventuellement la marijuana. Il a une idée beaucoup plus ouverte, beaucoup plus, comment je pourrais dire, populaire du Canada. Et donc, ce qui est intéressant, elle va aller plus loin, Mme Bombardier, dans son analyse. Elle va ajouter ceci. Justin Trudeau, que le théâtre a toujours attiré, comprend plus que la plupart des politiciens la force de la symbolique. Le changement qu'il incarne se reflète dans les apparences avant même que le contenu prenne forme, ce qui explique cette longue marche de ses ministres à travers le public dans le parc de Rideau Hall et l'image de ses enfants attendant sagement l'arrivée de leurs parents et sur lesquels les caméras de télévision se sont longuement attardées. Et C'est sûr que c'est un homme d'image, c'est clair. On l'a vu tout au long de la campagne, même si parfois on lui reprochait d'avoir des cassettes dans la bouche, de répéter des phrases toutes faites. Il avait le sens du punch, le sens de l'image et on le voit de plus en plus. Monsieur Trudeau est très concerné par l'image. Et pourquoi? Et parce que ça fait partie de son parcours, ça fait partie de sa personnalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment travailler sur la symbolique. Et c'est pour ça que même s'il y a des changements difficiles pour certains, même s'il va amener justement des lois, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, il va s'organiser pour légaliser la marijuana, mais il va faire passer ça comme si ça va contribuer à un mieux-être. C'est l'homme d'image, c'est l'homme qui va être capable de faire passer les gros morceaux. Et comme dit l'expression, qui va faire passer les chameaux tout ronds. Alors, elle mentionne également qu'il a généré un enthousiasme contagieux. Pourquoi? Parce que toutes les générations s'identifient à lui, les plus jeunes. Et elle va dire quelque chose d'intéressant. Elle dit « Les plus jeunes par effet de miroir et les plus vieux ont le sentiment de rajeunir. » Alors, c'est pour ça. Il amène, contrairement à M. Harper, qui était un homme sobre, et il amène un vent de fraîcheur et c'est ce qui est attirant. Mais, il faut faire attention, hein? Parce qu'il n'a pas encore fait ses preuves. Alors, il n'a pas encore fait ses preuves. Et là, l'avenir nous dira si les Canadiens ont fait un bon choix et si c'est ce genre de Canada-là vraiment que les Canadiens voulaient. Alors, sur la scène provinciale, si on s'attarde sur le Québec, eh bien, il y a une nouvelle qui est sortie hier qui, moi, me fait sursauter. C'est le questionnaire sur l'offre des soins de santé. Eh bien, ce questionnaire-là va justement tenter de... Comment je pourrais vous dire ça? Ce questionnaire-là vise à avoir l'opinion des Québécois, à savoir, est-ce qu'on devrait couper des soins de santé? Et des soins de santé coûteux, par exemple. Et la présidente de la Fédération des infirmières du Québec dénonce, des infirmiers et infirmières du Québec, dénonce les questions tendancieuses, nous rapporte justement... le Journal de Montréal, elle dénonce des questions tendancieuses du commissaire à la santé, parce que c'est le commissaire à la santé qui est à la barre de ce questionnaire-là. Eh bien, la présidence de la FIQ dénonce les questions tendancieuses du commissaire à la santé visant à déterminer si on doit payer ou non pour certains services aux autistes et aux cancéreux. Le ministre soutient toutefois qu'on devra faire des choix difficiles. Quand le ministre dit qu'on devra faire des choix difficiles, il parle de la société, il parle du gouvernement qui représente la société, qui, eux, sont en position de pouvoir, en position décisionnelle. Eh bien, ça veut dire qu'il a déjà résolu qu'on va couper dans ces soins-là. Et c'est dangereux parce que c'est comme si on est en train, dans le fond, par ce questionnaire-là, faire admettre aux gens que oui, c'est vrai que ça ne vaut pas la peine, par exemple, quelqu'un qui est en fin de vie, qui a un cancer, de lui donner des soins coûteux si on sait qu'il va mourir quelque temps, dans quelques semaines ou quelques jours, tout au plus. Mais ce qui arrive, c'est que le problème avec ça, c'est pas pour rien que la loi sur l'euthanasie a passé au Québec récemment, a été votée au Québec récemment, parce que justement, on a fait passer cette loi-là avant d'opérer ces changements-là dans le budget de la santé, puis dans la procédure et dans les services. C'est sûr que c'est dénoncé par Amir Kadir, qui est de Québec solidaire, et moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que le résultat de ça, si on arrive vraiment à couper dans les soins puis dans les services aux gens qui en ont besoin, comme aux autistes ou aux cancéreux, eh bien, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est qu'en fin de vie, puisqu'ils vont souffrir et ils vont être aux prises avec une maladie qui sera pas sous traitement, eh bien, qu'est-ce qu'on va leur offrir? L'aide médicale à mourir. Et c'est pas pour rien qu'on a fait voter la loi auparavant. Et moi, là, ça me désole lassablement. Je suis vraiment déçu de tout ça. Et je vous invite à lire cet article dans le Journal de Montréal. Et parce que c'est pas par un questionnaire tendancieux qu'on doit faire passer ce morceau-là. Pour la présidente de la FIC, elle dit justement, il est possible de débattre de ces questions, mais elle, selon le Journal de Montréal, prône plutôt des états généraux où tout sera mis sur la table. Et ça, moi, je trouve ça important, justement, qu'on puisse faire la lumière, qu'on puisse débattre. Parce que quand il y a des états généraux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des experts sous tous les fronts qui vont venir s'exprimer. Puis là, après ça, il se dégage un consensus et on essaie de trouver la meilleure solution. Mais pour moi, dans mon optique, je crois que ce n'est pas dans le budget de santé puis dans les soins qu'on doit couper. C'est dans les structures, mesdames et messieurs. On a des structures qui sont coûteuses. Et puis, à ce moment-là, évidemment, ce que je trouve déplorable également, c'est qu'on a une surtaxe santé pour arriver à maintenir au niveau de l'eau le système de santé. Et puis, on paye environ la moitié de nos taxes et nos impôts qu'on paye et de nos services vont pour le système de santé. À chaque fois que je paye, par exemple, 10 $ de taxes sur un produit ou un service, il y a 5 $ qui s'en va pour financer la santé. À chaque fois que je paye 100 $ d'impôts, il y a 50 $ qui vont pour la santé. Les 50 autres $ vont pour tout le reste. On a un budget énorme dans la santé et on n'arrive pas et on se dit « bon, ben là, il va falloir couper dans les soins ». Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pense qu'on a une machine trop lourde, trop coûteuse et ce n'est pas dans les services directs aux patients qu'on doit couper, c'est dans la structure, c'est dans la bureaucratie, c'est dans le dédoublement et c'est là qu'on doit faire un ménage et je crois que ce serait là d'abord qu'on devrait faire des états généraux sur la question de la santé. Alors, le dernier point que j'aimerais vous parler, c'est le rapport Payette. C'est un peu moins sérieux. Quoique c'est sérieux, pourquoi j'en parle? Parce que oui, ça a quelque chose, ça a des conséquences sérieuses si on appliquait ce rapport-là. Mais le rapport en soi n'est pas pris au sérieux. C'est un rapport qui a été commandé par Mme Marois, Pauline Marois, l'ex-première ministre, qui a demandé à Mme Payette de faire un rapport sur les médias de la région de Québec parce que ce sont des médias qu'on voit un peu plus conservateurs, un peu plus de droite et ça nuit justement à l'élection des candidats du Parti québécois qui sont souverainistes de gauche, centre-gauche, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Sophie Durocher dans le Journal de Montréal et Marco Belair-Cirino dans le Devoir ont commenté ce rapport-là. Et bon, somme toute, ce rapport-là n'est pas très pris au sérieux. Ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu dans les autres médias, eh bien, ce rapport-là n'est pas très pris au sérieux. Ce que nous dit Sophie Durocher, essentiellement, elle dit c'est hallucinant. Voici mes réflexions à la lecture de ce document bâclé et affligeant, qui n'aurait même pas mérité la note de passage s'il avait été soumis par un étudiant inscrit au bac en communication. Premièrement, elle va dire « L'auteur démolit à coup de pic la radio parlée de Québec, sans jamais donner un seul exemple. Pas un pour étayer sa thèse. Elle accuse la radio de faire du bullying, de l'intimidation, d'être misogyne, antisyndicale, etc. Mais elle est incapable de donner un seul exemple concret. » Vous savez, la radio, surtout la radio privée, eh bien, c'est supporté par des commanditaires et les commanditaires vont financer une radio si un auditoire. Alors, si dans la région de Québec, il y a un auditoire et il y a des stations de radio qui nourrissent ou qui diffusent l'information à un auditoire et cet auditoire-là veut un contenu un peu plus à droite, un peu plus conservateur, eh bien, c'est parce que c'est l'auditoire qui la demande. Et s'il y a moins de radios qui sont à gauche ou socialistes à ce moment-là, bien, c'est parce qu'il n'y a pas une demande ou il n'y a pas un intérêt dans ce sens-là. Maintenant, est-ce qu'on peut dire « oui, mais pour l'équilibre, ça serait intéressant » Mais là, à ce moment-là, eh bien, c'est au marché de décider. C'est à des gens impliqués dans le milieu de mettre sur pied des stations de radio. Et je pense qu'on doit laisser la population décider. On doit laisser le marché décider dans ce cas-ci. Et s'il y a des gens, par exemple, qui veulent mettre sur pied une radio différente qui amène un contenu, moi, je suis ouvert à ça. Mais on doit laisser les gens libres. On ne doit pas justement museler les stations de radio. Qu'elle soit de gauche, qu'elle soit de droite ou qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit de centre. Je crois que l'opinion publique a besoin d'entendre une diversité d'opinions et à ce moment-là, eh bien, c'est aux gens qui veulent entendre ou qui veulent s'informer dans un point de vue d'appuyer des stations de radio. Et j'espère que vous allez de plus en plus, vous allez de plus en plus à appuyer le 92,7. Et maintenant que je vois que le temps file, alors si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à leblogueur@ericlantier.net. leblogueur@ericlantier.net. Donc, c'est déjà le temps de clore cette émission. Et je vous invite donc à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour un tour d'horizon. N'oubliez pas, cette émission est également disponible sur le www.ericlantier.net. www.ericlantier.net. Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Je vous dis donc à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@ericlantier.net. Le tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!